qui connaissent aujourd'hui une persécution, enfin aujourd'hui ça fait déjà même 40 ans maintenant, mais une persécution de plus en plus forte et qui sont en train de quitter progressivement tous les terres du Proche-Orient, ces terres de naissance du christianisme, donc ça peut être les persécutions. Là, c'est les persécutions collectives, parce qu'on appartient à un groupe qui, dont les gouvernants ou les populations majoritaires ne veulent plus. Mais vous avez tous ceux qui partent à cause de la misère. Même si la question de la misère ne suffit pas à elle seule à expliquer les migrations. Parce que si la question de la misère suffisait à expliquer les migrations, eh bien, les trois quarts de l'Afrique seraient ici. Je parle de l'Afrique parce que c'est ce qui est le plus proche de nous. Mais non, il y a des facteurs multiples qui s'ajoutent. Il peut y avoir en effet la misère, et avec la sécheresse qui ne cesse de s'étendre maintenant avec les changements climatiques, eh bien, de plus en plus de gens qui ne peuvent plus vivre sur leur terre. Dans beaucoup de pays africains, c'est en train de se passer comme ça. Par exemple, un pays comme le Mali, mais pas seulement. Quand les terres ne peuvent plus produire, qu'on ne peut plus nourrir les siens, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc il peut y avoir ces phénomènes liés à la misère, au changement climatique. On va avoir de plus en plus de gens qui vont bouger à cause des changements climatiques. Il y a des pays qui sont en train de couler sous l'eau, par exemple le Bangladesh. Et alors, le Bangladesh est un des pays les plus peuplés du monde. Si les gens ne veulent pas mourir noyés ou mourir de faim parce qu'ils ne pourront plus cultiver un peu, ben, ils vont bien être obligés de partir. Il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Donc, la misère notamment liée au changement climatique, et ça, c'est devant nous, ça ne fait que commencer. Mais aussi des régimes politiques, alors plus corrompus que dictatoriaux. Dans beaucoup de pays, les gens ne souffrent pas de la dictature, d'abord parce qu'elle viendrait leur interdire de penser, de s'exprimer comme ils le voudraient. Ce sont plutôt les intellectuels qui peuvent être victimes de persécutions de dictateurs. Mais la dictature va très souvent avec la corruption, donc avec l'appauvrissement d'une partie des populations et surtout des populations les plus pauvres. Alors là, ce ne sont plus les populations de la campagne, mais ce sont plutôt les populations des villes qui connaissent une extrême pauvreté, qui n'ont pas accès au minimum de biens pour survivre et qui sont amenés à partir. Mais ça suffit parfois pas encore assez. Je vous disais tout à l'heure que j'habitais avec quatre jeunes Africains, et ces dernières années, donc j'ai vécu avec une quinzaine de jeunes différents. Ce qui m'a beaucoup frappé chez eux dans l'itinéraire, c'est que presque toujours, il y avait eu un drame familial. Presque toujours, il s'agit de jeunes qui ont perdu leurs parents, par exemple des jeunes Guinéens dont les parents sont morts avec l'épidémie d'Ebola, ou d'autres maladies. Souvent, il s'agit de jeunes qui appartiennent à des familles polygames en Afrique, ou en tout cas pour des Guinéens, des Ivoiriens, Camerounais, que j'ai pu connaître, parce que la maman est décédée dans certaines ethnies, eh bien le frère aîné du papa, quand il existe, épouse la veuve. Et souvent ne prend pas bien soin de cette veuve et ne prend pas soin des enfants. Des enfants qui se retrouvent sans protection familiale, sans liens familiaux et qui se retrouvent à la rue, qui sont des jeunes de la rue et qui, pour survivre, vont se déplacer. Vont partir d'abord dans un pays voisin, au Mali, puis après arriver au Mali. C'est pas ça, parce qu'il y a la sécheresse, donc ils partent en Algérie. En Algérie, il y a du racisme, des Maghrébins à l'égard des Noirs, et puis on leur dit qu'il y a plus de chances de trouver du travail en Libye, donc ils partent en Libye. Puis en Libye, là, ils sont enlevés, ils sont persécutés, ils sont vendus comme esclaves, puis finalement, ils sont mis dans des canaux quand ils ont pu récolter d'une manière ou d'une autre un peu d'argent. et ils arrivent ici, quoi. Voilà, donc c'est des phénomènes souvent qui s'accumulent, en tout cas pour ce qui est des Africains, puisqu'on connaît, on connaît bien maintenant les itinéraires, hein, de ceux qui arrivent ici. On voit bien que ce n'est pas un seul élément qui a été la cause de du départ. Et c'est intéressant aussi de voir, moi ça, j'ai beaucoup appris ces dernières années avec cela, c'est que chez la plupart, en tout cas des jeunes Africains que je rencontre, quand ils ont quitté leur pays, il n'y avait pas l'intention de venir en Europe. Contrairement au discours qui est tenu souvent, en disant, voilà, il y a le rêve de l'Europe, ils ont vu l'Europe à la télévision, ils ont vu, etc., etc. En fait, non, parce que l'attitude de la plupart des gens, c'est d'avoir envie de vivre dans son pays. Et quand on ne peut pas vivre dans son pays, on se dit peut-être que je vais pouvoir vivre à côté de mon pays parce que ça donne plus de chances de pouvoir y retourner. Et on voit, en tout cas pour la migration africaine, que c'est forcé pour la plupart d'entre eux qu'ils ont été amenés progressivement à remonter vers le nord et à se retrouver jusqu'ici. En sachant aussi que quand on a commencé à migrer, on peut difficilement repartir en arrière. Quand vous avez, et ça je trouve que c'est ce qui manque dans la réflexion de nos gouvernants, je reste un manque d'humanité, peut-être qu'ils se blindent pour pouvoir gérer les choses de manière la moins affective possible, mais je prends l'exemple d'un jeune Guinéen ou un jeune Ivoirien qui a quitté son pays pour les raisons que j'évoquais, et qui a traversé déjà toute une partie du désert du Sahara, qui a risqué sa vie tout au long de ce passage, parce que pendant toute la traversée du désert, il y a le risque d'être attaqué par des groupes de Touareg, des groupes qui cherchent à rançonner les migrants. Donc vous avez risqué déjà votre vie une bonne partie du temps. Puis finalement, vous arrivez en Algérie, au Maroc, c'est mieux. Bon, là, vous pouvez respirer un peu, mais très vite, vous voyez que vous n'êtes pas bien les bienvenus, donc vous partez ailleurs. Puis, si vous vous retrouvez 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans esclaves en Libye, où vous risquez d'être tué à tout moment parce qu'un noir, ça vaut rien pour un Libyen, donc on tue les gens comme ça, sur un caprice, et que vous avez survécu à ça, vous avez eu peur de la mer, mais vous avez quand même pris la mer parce que c'était pas possible de partir en arrière, puis que vous arrivez en Italie où là vous avez la chance d'être récupéré par un bateau et vous n'êtes pas mort en mer comme 50 000 autres depuis 30 ans, et puis en Italie on vous met dans un camp, au bout d'un moment vous allez pouvoir sortir du camp, puis vous allez arriver en France. Comment penser que les gens pourraient retourner ? Faire comme si tout ce qu'ils avaient vécu, ça ne comptait pour rien, quoi. C'est complètement impensable. Et dire « vous devez rentrer chez vous », c'est par bien des aspects inhumains de dire ça. C'est ne pas prendre en compte toute cette douloureuse histoire, cette histoire humaine, quoi. Voilà. Bon, je parle d'Africain parce que je connais le mieux, mais quand vous voyez... On est surpris de la résistance de l'homme. Quand vous voyez des gamins de 15 ans qui viennent d'Afghanistan, vous vous rendez compte ce qu'ils ont dû traverser, passer. D'abord plein de pays en guerre, et puis des montagnes et des sommets enneigés. Et on se demande, la force de l'homme, c'est incroyable. Ça permet de comprendre un peu mieux l'exode. Hein. C'est-à-dire, par où ils sont passés, tous ces gens. C'est incroyable. Et beaucoup sont morts, encore d'autres. Et puis ils arrivent ici. Alors quand il s'agit des Afghans, en général, ce n'est pas en France qu'ils veulent venir. La France est un pays de passage. Ils désirent être acceptés en Allemagne parce qu'il y a une grosse communauté afghane en Allemagne ou en Angleterre, parce que là aussi, il y a la plus grosse communauté en Angleterre. Mais quand on voit ces chemins qu'il a fallu faire, par bien des aspects, ces gens, c'est des héros, en fait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais pas fait un centième, je serais mort en cours de route déjà, hein, j'aurais pas fait un centième des parcours qu'ils ont pu faire, quoi. Et ça va aller en s'accélérant. C'est-à-dire que les changements climatiques qui sont en train de se produire dans le monde, la détérioration politique dans un certain nombre de pays du monde, ben, vont faire que de plus en plus de gens vont migrer. Même si les chiffres sont gérables, encore une fois. Et la preuve, c'est que on a pu accueillir en quelques mois 100 000 Ukrainiens sans grosses difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficultés d'intégration, mais voilà, on a trouvé les moyens de les accueillir. Parce que, aussi, quand on accueille les Ukrainiens, on a en tête deux choses. C'est que, d'une part, un certain nombre d'entre eux retourneront vraisemblablement dans leur pays quand la guerre sera terminée, même si la guerre aujourd'hui s'annonce longue. Et puis il y a cette idée que parce qu'ils sont d'une culture occidentale, même si c'est une culture slave très particulière, eh bien, il est plus facile de les accueillir, ils passent plus facilement inaperçus dans la société française. On peut penser aussi qu'ils adhéreront plus facilement, ou déjà ils adhèrent plus facilement aux valeurs majoritaires de la société française. Quoi. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que nos pays européens sont des pays qui sont en train de vieillir et dont le renouvellement des générations est de plus en plus en panne. La France a fait exception pendant plusieurs années par rapport à d'autres pays comme l'Italie, ou la Belgique, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, etc. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, le solde est négatif. Les naissances ne compensent plus les décès en France. Mais pour certains pays, c'est catastrophique. Et ça interroge d'ailleurs beaucoup sur ce qui se passe dans nos sociétés. Et la parole de l'Évangile de ce matin, le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi, et je traduirai plus volontiers la confiance quand il reviendra, hein. C'est une question qui se pose. Je ne sais pas si beaucoup connaissent l'Italie, j'imagine que pas mal y sont allés. En Italie, il n'y a plus d'enfants. Incroyable. Moi, quand j'étais petit, on parlait toujours des mamas italiennes entourées de 10 enfants. C'est absolument fini. Même dans le sud de l'Italie, les écoles ferment. Les Italiens ne font plus d'enfants. Les Français en font encore un peu, et notamment les Français issus de l'immigration. Mais c'est assez incroyable. Et cela fait que nos sociétés, si elles ne font pas appel dans les 30 ans qui viennent à de nouveaux flux migratoires, sont des sociétés qui vont s'affaisser complètement. L'Allemagne l'a bien compris, hein. Même si Angela Merkel a eu pas mal de difficultés politiques à faire entendre cela, mais l'Allemagne sait que c'est un pays très riche qui sera complètement par terre dans 20 ans s'il n'y a pas des apports importants de population nouvelle. Et en France, on est en voie d'aller sur cette configuration. Beaucoup de gens qui sont hostiles à l'arrivée de migrants vont vous dire il y a déjà, alors on se bat sur les chiffres des chômages, mais il y a déjà 4 millions de chômeurs en France. Il est impensable de faire venir de nouveau des gens. Il faut d'abord que les nationaux ou ceux qui sont là soient embauchés. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'il y a des secteurs entiers de l'économie où on manque de gens. Que ce soit les métiers des travaux publics, que ce soit les métiers de bouche, même les métiers de transport, on manque de gens. Il y a une pénurie de personnel énorme dans des tas de secteurs de l'économie. Et nous avons là, pour des jeunes gens qui arrivent, enfin pour une grande partie des migrants, ce sont des gens encore jeunes, des jeunes gens qui arrivent, dont une bonne partie ne demanderait qu'à être formés d'une part, mais aussi à être dans ces emplois. Et les blocages de nos sociétés, blocages politiques, psychologiques, culturels, sociaux, je ne sais pas comment dire, administratifs aussi, font que on n'accueille pas cette possibilité-là, qui serait pourtant dans notre intérêt. Alors, il y a des raisons, tout à l'heure je disais en commençant qu'il ne faut pas être naïf ou inconscient, irresponsable en disant ouvrons, parce que c'est vrai que l'accueil de groupes humains venant d'horizons culturels différents ne va pas de soi. Et que l'accueil demande aussi des politiques d'intégration. De ce point de vue-là, l'Allemagne est beaucoup plus en avance depuis très très longtemps, depuis déjà les années 1960, que la France sur des politiques d'intégration volontaire très fortes. En Allemagne, par exemple, quand un migrant arrive, eh bien, on va lui demander tout de suite d'apprendre la langue, tout de suite. C'est une obligation. Et il n'y aura pas d'accès au droit au séjour possible s'il n'y a pas apprentissage de la langue. En France, on ne sait pas faire ça. On ne veut pas le faire. Donc ça demande que les gens soient accompagnés très très vite dans la connaissance de la langue, pour ceux qui ne parlent pas la langue, dans la connaissance aussi du fonctionnement de la société et des valeurs de la société. En France, moi je trouve, alors la France n'est pas le seul pays à faire ça, mais je trouve qu'on ne prend pas suffisamment en compte les différences culturelles des gens. Alors les raisons ne sont pas forcément condamnables. C'est-à-dire qu'en France, depuis la Révolution française, il y a cette affirmation qui est juste et bonne, c'est que tous les êtres naissent égaux en droit et en dignité, quelle que soit leur origine. Et que personne ne doit être prisonnier de son origine. Ce n'est pas parce que vous avez un papa juif ou catholique ou je ne sais pas quoi, ou une maman, que vous devez vous considérer comme un juif ou comme un catholique pour toute votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez des parents ou des grands-parents de telle origine que vous devez porter cette origine pour toute votre vie et pour les générations à venir. Voilà. Donc ça, il y a un aspect positif dans cela, de prendre la personne indépendamment de ses origines, d'affirmer son droit à l'égalité. Mais le revers de cette attitude-là, c'est que toute personne, en fait, elle a des enracinements culturels, historique, et que cela va jouer dans son fonctionnement, dans sa manière de rencontrer les autres. Tout à l'heure, on parlait des Ukrainiens avec l'idée, le sentiment qu'ils seraient plus faciles à intégrer dans le tissu social français. Ça reste à prouver, mais c'est le sentiment de la plupart des gens. En revanche, on va dire des gens qui viennent d'Afghanistan, des gens qui viennent d'Afrique noire, des gens qui viennent, je ne sais pas trop d'où, ou qui viennent du monde de l'islam, mais il va être plus difficile de les accueillir. Et ce n'est pas faux, en ce sens que quand on appartient à une culture, c'est une manière d'habiter le monde. C'est une manière de concevoir la relation aux autres. Et à Dieu pour ceux qui sont croyants. C'est une manière de vivre les questions d'hygiène, de santé, le rapport à la nourriture, les relations hommes-femmes, la manière d'éduquer les enfants. Enfin, c'est tout ça, les cultures. Et de fait, il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur sur les cultures, mais comme elles ne sont pas identiques, lorsque des gens de cultures différentes se retrouvent au contact les uns des autres, eh bien, s'il n'y a pas les moyens d'apprendre la culture de l'autre, et notamment de la société majoritaire, s'il n'y a pas des efforts qui sont faits pour entrer dans le paysage intérieur de l'autre, bien sûr, on va vers l'échec. Et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, qui sont devenues des terres d'immigration de plus en plus à partir des années 1960, eh bien, on voit que dans beaucoup de ces pays, il y a eu un échec de l'intégration. Alors, pas total, mais important. Pour ce qui est de la société française, on le voit avec ce qui peut se passer dans une partie de nos banlieues, hein, où il y a des nouvelles générations issues des immigrations précédentes qui n'ont jamais, qui sont jamais parvenues à faire leur place, à trouver leur place dans la société française. Pour diverses raisons, mais notamment parce que la société française n'a pas su accompagner ces différentes familles, cette jeunesse-là, dans des processus d'intégration importants. Il y a des tas de choses qui nous échappent dans le fonctionnement d'un certain nombre de migrants. Bon, personnellement, j'ai été amené à être pas mal impliqué dans la relation avec le monde musulman. Et c'est vrai que dans le monde musulman, les conceptions des rapports hommes-femmes ne sont pas les mêmes que dans le monde occidental. Le rapport au corps n'est pas le même, le rapport à l'hygiène n'est pas le même. Le rapport à Dieu n'est pas le même non plus. Et a fortiori quand on est dans une société de plus en plus déchristianisée. Voilà. Donc si on n'a pas, si on ne donne pas à ceux qui arrivent les moyens de comprendre la société dans laquelle ils arrivent, et si on ne donne pas les moyens aux gens de cette société majoritaire de comprendre un peu comment fonctionnent les autres, eh bien on en arrive à des clashs. L'exemple du voile islamique est tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Tous les malentendus, alors ça date maintenant, parce que la première affaire du voile islamique en France, c'est 1979, donc ça fait plus de 40 ans. Mais l'affaire du voile islamique, elle a été vue sous un angle uniquement religieux, par une société qui est majoritairement a-religieuse, alors qu'elle touche d'abord aux questions de la pudeur. Je trouve que c'est très éclairant cet exemple. Nous, les Européens, les Occidentaux, on appartient à des sociétés de dévoilement des corps. La statue